Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute, la pensée du corps dans le judaïsme avec Jean Baumgarten. Que nous disent les textes de la tradition juive sur le corps ? Dans un livre passionnant et foisonnant, Le Petit Monde, publié aux éditions Albin Michel, l'historien Jean Baumgartner est allé explorer tout ce que les sources juives, les sources légales, les sources éthiques, les sources mystiques, les sources talmudiques, tout ce que les sources juives nous disent du corps humain. Jean Baumgarten, vous êtes avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir donc dans le bénéfice du doute pour discuter de ce sujet qui se révélera, on va essayer de le montrer, éminemment politique autant que philosophique. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez publié différents livres sur le yiddish, sur la naissance du chassidisme. Vous êtes un spécialiste de l'histoire du judaïsme ashkénaze. Et ce nouveau livre donc qui vient de sortir aux éditions Albin Michel, Le Petit Monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive de la Bible aux Lumières, est un ouvrage absolument passionnant parce qu'il déborde de références à des textes extrêmement divers. Et c'est votre parti pris, Jean Baumgarten, puisque vous choisissez, vous en justifiez le parti pris dès l'introduction, vous choisissez de ne pas plaquer sur cette question du corps, un modèle théorique trop fixe, trop fermement établi. Vous choisissez de ne pas unifier conceptuellement ce qui relève de traditions très multiples, hétérogènes, qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors, on vous suit en comprenant que il est impossible de dire ce que le corps humain est dans la tradition juive, puisque votre propos est de montrer qu'il n'y a pas une tradition, mais plusieurs. En revanche, on peut peut-être commencer notre discussion, Jean Baumgarten, en disant ce que le corps n'est pas dans la pensée juive, par opposition à d'autres traditions, à la pensée grecque du corps, à la pensée chrétienne. Quels sont les invariants de ces traditions juives sur le corps ?
Bon, merci d'abord pour votre invitation. Et oui, cette réflexion sur le corps, elle est partie d'abord d'un simple fait. Je me suis aperçu en lisant des histoires du corps dans la tradition occidentale, disons, qu'il y avait une vision qui était surtout centrée sur la prééminence de l'esprit, enfin de l'âme, et que le corps était toujours considéré comme une réalité subalterne, enfin inférieure. Et donc j'ai voulu voir dans les textes de la tradition, si cette idée était pertinente, et je me suis aperçu justement un des traits singuliers, c'est qu'il n'y a pas ce dualisme entre le corps et l'esprit, mais que on est dans une pensée, enfin très complexe, très diverse, mais dans laquelle il y a une complémentarité, une unité entre le corps et l'esprit, et qu'il est impossible de séparer ces deux entités. Et ça a été un des fondements du livre aussi. C'est un des fondements des traditions textuelles du judaïsme. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc, réviser, revoir et aussi inverser cette prise en compte du rapport entre le corps et l'âme ou l'esprit, et de montrer que lorsqu'on part de ces réalités somatiques, eh bien on arrive, non seulement on trouve un nombre incalculable de textes, mais aussi on peut à partir de cela recomposer les catégories, les codes, les valeurs qui singularisent, qui particularisent le judaïsme, et que ça n'est pas un élément subalterne ou secondaire, mais que nous sommes au cœur des catégories qui singularisent le judaïsme.
Vous insistez beaucoup, chaque fois que vous mentionnez un texte, une source que vous citez abondamment, vous insistez beaucoup sur les usages historiques de ces textes. Ils interviennent dans un certain contexte. On a l'impression que finalement tous ces textes qui parlent du corps, ils sont disponibles, mais ils ne sont activés qu'à condition qu'ils répondent à un besoin du moment. Et en particulier, selon les époques, on met plus ou moins l'accent sur le corps, ou au contraire, on le passe sous silence. Le judaïsme est pris dans une tension, notamment avec la pensée chrétienne du corps, qui A contrario, le christianisme caricature le judaïsme comme une religion tellement incarnée qu'elle en est charnelle. Hein, la carnalité juive est finalement stigmatisée comme telle par le christianisme. Et inversement, c'est pas entièrement une religion du corps, mais le corps a effectivement son importance. On est une unité finalement. On peut dire les choses comme ça. On est un corps habité par une âme.
Absolument, et on peut partir de ce fameux verset de la Genèse, où Dieu crée l'être humain à l'image et à la ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Donc ça veut dire, justement, là on voit bien la complémentarité et l'intrication entre ces deux dimensions matérielles, physiques, concrètes et spirituelles. Et aussi, ça débouchera sur toutes sortes de règles d'usage sur justement l'intégrité, sur le fait qu'il ne faut pas altérer, endommager, notamment scarifier le corps, mais que comme il y a dans le corps une parcelle, ce qu'on appelle les étincelles de sainteté, et qu'il y a une part du divin dans le corps, eh bien, il faut respecter le corps et ne pas le manipuler et le trafiquer, entre guillemets.
Alors, ça, effectivement, c'est pour toute cette éthique du corps, hein, à laquelle vous consacrez plusieurs chapitres, en partant effectivement de cette idée que l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, et donc cette parcelle de sainteté, il ne faut pas l'abîmer. Mais cette réflexion, la ressemblance de Dieu, elle a servi aussi à alimenter toute une réflexion mystique, hein, dans la mystique juive. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est évidemment de là que vient le titre de votre livre, Un petit monde, Olam Katan. Qu'est-ce que ça veut dire dans la mystique juive?
Eh bien, pas uniquement dans la mystique juive, mais c'est un concept, enfin une idée tout à fait importante, que le corps, les parties du corps et tout ce qui a trait aux réalités somatiques, non seulement leur correspondance dans les mondes supérieurs, mais qu'il y a une relation entre la forme corporelle et les mondes supérieurs et ce qu'on peut savoir des formes des réalités, des mondes supérieurs. Donc il y a là une correspondance, et donc ça va déboucher sur des considérations halachiques, c'est légal, sur des considérations éthiques et aussi sur des considérations mystiques, puisque par exemple dans l'arbre séphirotique, donc le fait que pour lors de du processus de création, eh bien Dieu, les attributs divins prennent une forme anthropomorphique. Enfin, il y a donc une relation entre la forme divine et le corps. Donc, on voit très bien que entre les réalités les plus basses, les plus concrètes, et puis les réalités supérieures, le corps est un espace intermédiaire et qu'il y a une correspondance donc entre les deux.
Cette correspondance, elle signifie aussi que dans cette vision mystique, ce qui se passe au niveau du corps réfléchit ce qui se passe dans le cosmos divin, et qu'il y a donc un accès possible par la voie du corps.
Oui, absolument. Alors là, on peut dire qu'il y a certainement une influence des mythologies de l'Orient ancien, enfin de la Mésopotamie notamment, et on voit très bien que de la pensée d'Israël, enfin la pensée juive, il y a eu des porosités, des influences, et que la représentation qui s'impose, c'est celle du corps, enfin le corps du roi, le corps de Dieu, et le corps humain. Et donc il y a des passerelles et des correspondances, mais c'est cette forme qui est première et qui permet des liens entre les influx divins et puis le monde corporel, et aussi comment on peut attirer ces influx et comment on peut influer sur le monde supérieur. Donc il y a une correspondance et des liens entre le haut et le bas. Et c'est le corps qui permet, qui est ce lieu intermédiaire, cet espace intermédiaire entre le très haut et le monde matériel.
Et dans cette vision du corps, on rejoint, alors je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui on vit dans une ambiance très syncrétique, mais on rejoint des réflexions qui sont extrêmement contemporaines, un nouveau regard sur le corps qui finalement rejoint ces réflexions mystiques, ou qui servirait de réceptacle ou de reflet, non pas seulement de l'âme, mais de réalité supérieure.
Oui, il y a cela, c'est-à-dire qu'on peut lire sur le corps des messages qui viennent de l'au-delà. Donc le corps permet de comprendre et d'estimer enfin tous ces messages des mondes supérieurs, et aussi c'est par l'intermédiaire du corps, enfin notamment dans les techniques mystiques, et bien que l'on peut, notamment dans les voyages vers l'au-delà, enfin qui dans l'ascension de l'âme, et bien ça part d'une concentration, d'une méditation et d'un rapport spécifique au corps, notamment par des pratiques ascétiques, aussi de concentration, de méditation. Donc on voit très bien les circulations, les passerelles entre le haut et le bas à partir de ces réalités somatiques. Donc c'est très important dans toutes les pratiques et toutes les techniques mystiques fondées sur une discipline du corps.
Et aussi, dans le prolongement évidemment de ce rôle central du corps dans les textes mystiques, c'est cet usage très fréquent des métaphores corporelles pour qualifier la richesse, la sagesse de la Torah. Chaque verset de la Torah a 70 visages, 70 faces. C'est pas seulement une métaphore ici, il y a quelque chose, j'allais dire, d'extrêmement concret. En même temps que de très abstrait dans cette manière de parler du texte.
En fait, dans tous ces textes, on voit très bien qu'il y a deux conceptions, que l'idée essentielle, c'est la représentation du divin. Donc, est-ce qu'on peut se faire une idée de Dieu ? Donc, il y a des textes, il y a des traditions qui donne à Dieu vraiment une forme corporelle qui est anthropomorphise, donc le divin. Et au contraire, par exemple, chez Maïmonide, on voit qu'il y a un refus de la corporéité divine et qu'on est dans un au-delà de tout ce que, à la fois ce que le langage et aussi ce que les catégories rationnelles peuvent essayer de comprendre de Dieu. Et donc, il y a aussi un rapport avec ce qu'on a appelé la théologie négative, c'est-à-dire qu'on ne peut savoir, on ne peut connaître et on ne peut comprendre Dieu qu'en nous disant ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de passion, il n'a ni commencement ni fin, et c'est le seul moyen d'appréhender et d'essayer de comprendre les réalités divines. Et puis il y a beaucoup d'autres textes, notamment des midrashim et des textes mystiques, de la mystique ancienne, dans lesquels, au contraire, Dieu a une forme. Alors, on peut parler vraiment, il y a des métaphores corporelles dans lesquelles on parle des pieds de Dieu, du visage de Dieu. Et donc, par exemple, le texte le plus représentatif de ces conceptions, qui dépendent beaucoup des mythologies de l'Orient, c'est le Shiur Koma, c'est-à-dire les mesures de Dieu. Dans lequel, dans ce texte, ce qui est remarquable, c'est le gigantisme par rapport à la créature humaine. Dieu a des dimensions tout à fait incommensurables, d'une grandeur qui dépasse presque l'entendement. Mais ce qui est fondamental, c'est cette forme corporelle. Ce qui est premier, c'est le corps et le fait que Dieu a un corps. Donc il y a ces deux de traditions tout à fait opposées, de considérer que vraiment c'est tombé dans des superstitions et dans des traditions dites populaires que de considérer que Dieu a un corps, et puis au contraire, il y a des traditions, et notamment on retrouvera ça dans le Zohar et dans la Kabbale, il y a des traditions dans lesquelles le corps est tout à fait important, et que tout ce qui a trait aux dimensions, à l'appréhension, du corps sont extrêmement essentiels pour comprendre le divin.
On comprend en vous lisant, Jean Baumgarten, que ce débat finalement théologique, hein, Dieu a-t-il un corps, le corps de Dieu, l'usage des métaphores corporelles pour parler du divin, tout ça a des retombées pratiques extrêmement concrètes, puisque vous consacrez un grand nombre de pages à toutes ces consignes de régulation du corps, hein, à partir évidemment des textes éthiques ou légaux. Dans les traditions juives, profaner le corps, c'est dégrader l'image de Dieu, et du coup, ce corps, il faut en prendre soin d'une manière qui est extrêmement ritualisée. Ça veut dire des consignes d'hygiène très très précises, des consignes d'alimentation, ça on le sait, un certain régime du corps, une sexualité extrêmement normée, tout pour éviter de faire du corps un vecteur d'impureté. Qu'est-ce que c'est que ces devoirs du corps que notre ressemblance au divin nous impose?
Mais justement, étant donné qu'il y a une parcelle de divinité, du divin dans le corps, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas l'endommager. Et donc, cette idée débouche sur tout un ensemble de règles qui sont extrêmement strictes et fondées sur le fait qu'il y a, disons, ce qu'on appelle le penchant à bien faire et le penchant à mal faire, et que chacune des parties du corps peuvent soit être utilisées dans un but juste et droit, et au contraire on peut tomber dans le mal ou dans le domaine du mal et se servir du corps pour des actes qui sont répréhensibles, et donc ça nous introduit dans toute une catégorisation anthropologique entre le pur et l'impur, la gauche et la droite, le permis et l'interdit, et donc la pensée juive et tous ces textes sont fondés justement sur à la fois une régulation, une discipline du corps et aussi sur l'idée d'intégrité. C'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum d'endommager le corps et le but, c'est de l'imitation de Dieu, donc garder cette sainteté, cette intégrité du corps en ayant un comportement raisonnable et en ne tombant pas justement dans ses usages, dans ses comportements, en se servant du corps pour des conduites qui peuvent être répréhensibles. Et donc ça débouche vraiment sur tout un ensemble de réglementations extrêmement rigoureuses et tout un système symbolique, anthropologique, d'une grande complexité. Et quand on lit des textes comme le Talmud, on s'aperçoit que le corps est omniprésent et que c'est justement à partir du corps que l'on peut réguler et que l'on peut qu'on peut diviser entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est justement ces métaphores corporelles et ces pratiques du corps qui sont tout à fait essentielles.
Séparer entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est masculin et ce qui est féminin aussi, hein, vous insistez beaucoup évidemment sur cette distinction anthropologique et ces marqueurs dans les usages du corps. Vous mettez à jour en réalité, Jean Baumgarten, toute une grammaire des perversions et des déviances dans le rapport au corps. Et c'est là qu'on rejoint, si on réinjecte du contexte historique, c'est là qu'on rejoint la dimension politique de votre propos, me semble-t-il, parce que finalement le corps est le prétexte ou le lieu d'un très fort contrôle social.
Oui, absolument. Donc ça, disons, il n'y a pas une répression du désir et du plaisir, bien au contraire.
Oui, ça, vous insistez beaucoup, bien sûr, hein, sur cette réhabilitation.
Voilà, réhabilitation du désir et du de plaisir, la sexualité, de l'érotisme, etc. Une érotisation du corps qui est très importante, notamment dans les textes de la Kabbale, et avec cette idée, justement, que joindre le masculin et le féminin et retrouver une unité perdue, séparation née de la faute et originelle, et tous ces aspects sont extrêmement importants et débouchent sur une sexualisation, une érotisation du corps tout à fait positive. Mais en même temps, bien sûr, il y a une mise à distance de tous ces comportements qui, au contraire, vont vers disons, des comportements déviants, des comportements qui peuvent endommager, qui peuvent réduire justement cette part de divinité qu'il y a dans le corps. Et la littérature éthique va s'emparer de tout ce système très complexe de régulation et montrer combien il est important de se conformer à toutes ces injonctions et que on peut dire même que Dieu prend plaisir à voir sa créature aller dans le droit chemin, et au contraire combien quand la créature humaine s'écarte du droit chemin, eh bien que Dieu peut l'admonester, le tenser, le punir. Et donc il y a toute cette opposition entre ces deux voies qui sont tout à fait importantes dans la littérature éthique et qui déterminent des régimes de vie, des régimes de conduite, des régimes du corps tournés vers la satisfaction du plaisir, mais un plaisir maîtrisé et qui ne dérive pas vers des pratiques soit hérétiques, soit qui seraient une sorte d'usage immodéré du plaisir et du corps. Donc c'est toujours un plaisir encadré et une sexualité encadrée, normée, sans que le plaisir soit refoulé.
L'une des périodes historiques ou l'un des mouvements juifs dans lequel le rapport au corps a joué le rôle le plus important, et vous lui consacrez un chapitre, c'est le chassidisme, que vous connaissez bien, Jean Baumgarten, que vous décrivez bien sûr comme la pointe extrême de la tradition mystique juive, c'est-à-dire aussi un mouvement qui popularise, j'allais dire qui démocratise les notions kabbalistiques, qui prend le parti finalement d'expliciter sur le terrain du corps l'idée que l'expérience mystique, le rapport à Dieu, est plus importante que les spéculations intellectuelles des grands savants et des sages du Talmud. Le terrain d'opposition entre les chassidim et leurs contempteurs, qui allaient jusqu'à les excommunier, c'est le rapport au corps. Et c'est là qu'on retrouve finalement cette idée que ce rapport au corps est extrêmement politique dans le judaïsme.
Oui, dans les tout débuts du chassidisme, l'opposition entre les mitnagdim, c'est-à-dire les opposants au chassidisme, et les disciples du Gaon de Vilna, considéraient qu'il y avait chez les premiers adeptes du Baal Shem Tov, et donc dans ces groupes mystiques, il y avait une pratique du corps qui confinait un peu à la folie, enfin qui parce que notamment dans la prière extatique, c'est-à-dire le fait que il y a un enthousiasme, on est tellement pris dans l'enthousiasme de la louange divine que le corps se met à trembler, qu'il y a des phénomènes qui peuvent être jugés comme paranormaux, disons. Et là, on voit que
il sautille comme un cabri, hein, on retrouve ça dans un des textes.
Oui, absolument. Et ça, les rabbins, les notables et aussi les disciples du Gaon de Vilna voyaient d'un très mauvais œil, si je puis dire, le fait que les chassidim dansaient, sautaient devant l'Arche Sainte, cette prière extatique, et tout le fait que la louange de Dieu doit passer par des manifestations d'enthousiasme et de joie à partir du corps. Donc ça a été vraiment une opposition qui explique notamment le rérem, enfin l'excommunication des chassidim, qu'on considérait presque comme des sectes, enfin qui avaient, disons, dont les adeptes avaient une presque, on peut dire, des comportements pathologiques, enfin qu'on considérait qu'il y avait vraiment là une déviance qui était dangereuse pour l'unité et du peuple juif. Donc ça a été très important pour cliver, pour aussi exclure le chassidisme. Et aussi le fait que le corps du Rebbe, enfin le corps du tzaddik, enfin le corps du guide spirituel, du Ben, est justement ce corps intermédiaire, enfin cette réalité intermédiaire entre le haut et le bas, et qu'il est un foyer de drainage, si on peut dire, des influx divins qui sont diffusés dans la communauté. Et que en se mettant dans cette proximité du Rebbe, notamment dans ce rituel qui s'appelle le Tisch, enfin, qui est un repas communautaire. La commensalité a une très grande importance dans le rassidisme, le fait d'être ensemble, de manger ensemble. Eh bien, justement, pose le tzaddik, enfin le Rebbe, au centre de cette communauté presque idéale, qui est une préfiguration de la société messianique, parce qu'il y a des aspects messianiques très forts, et que donc le corps du Rebbe est un lieu intermédiaire entre les réalités supérieures et les réalités terrestres. Et donc, il y a cette fascination des gestes, fascination du corps et fascination aussi de la parole, des dires du Rebbe. Et là, on a une très bonne, un très bon exemple de cet important, justement, qui est donné à ce que l'on voit, aux gestes, aux manifestations du corps, qui ne sont pas refoulées, mais qui, au contraire, sont un peu considérées comme des messages qui viennent de l'au-delà et aussi des toutes sortes de messages qu'il faut décrypter, et dans lesquels il y a une sagesse, il y a des leçons à tirer. Et donc le corps, dans le racidisme, est extrêmement important, notamment dans la danse, notamment dans le fait de chanter, le fait de prier en chantant à haute voix. Et donc tous ces aspects-là sont ce qui particularise le racidisme et qui a été très critiqué, rejeté par les tenants d'un judaïsme plus normé, avec des dimensions, enfin, bien que l'ascétisme n'existe pas, mais disons avec des...
Avec plus de régulation aussi,
oui,
des pratiques.
Et de restriction du corps, où il ne faut justement pas, sauf, disons, manifester de la déférence et ne pas se comporter d'une manière qui peut être jugée comme un peu déraisonnable, enfin.
Mais alors justement, dans ce débat très très dur que vous restituez à propos du racidisme, on voit bien à quel point ce qu'on appelle la tradition juive n'est pas constitué, sauf par un geste extérieur arbitraire qui consiste à unifier de manière un peu autoritaire des textes très très hétérogènes, très hétéroclites. Et vous, dans ce livre, Jean Baumgarten, vous avez au contraire le parti pris que vous explicitez de laisser toute cette diversité, cette hétérogénéité, ces références parfois contradictoires, en insistant sur le fait que finalement dans les textes juifs tout est disponible à propos du corps. Il y a parfois des contradictions internes et que ça dépend des usages sociaux, ça dépend des contextes historiques, ça dépend des besoins qu'on a d'activer telle ou telle référence. Et vous en tirez, et c'est quelque chose qui me semble très intéressant, et je voudrais pour conclure vous laisser expliquer ce point, vous concluez sur l'engendrement des traditions dans le judaïsme. Comment se construisent les traditions, la tradition?
Bien là, enfin, ça a été une des idées importantes, disons, de toute cette recherche, c'est de remettre un peu en cause cette idée d'une vision un peu linéaire et homogène de ce qu'on appelle la chalchelet à Kabbalah, c'est-à-dire la chaîne de la tradition qui se transmettrait sans brisure, sans rupture. Et j'ai voulu montrer, au contraire, que le judaïsme et toutes ces traditions textuelles sont buissonnantes, foisonnantes, et que la diversité, et y compris les tensions et les contradictions, ne sont pas un élément qui affaiblit la tradition, mais au contraire de montrer qu'il y a une pluralité de possibilités de comprendre ces textes, de les interpréter, de les commenter, de les vivre, et que c'est cette richesse, cette multiplicité, cette diversité et ces contradictions qui sont une des particularités du judaïsme, qui n'est pas une tradition, disons, qui serait figée, enfin, qui serait bloquée dans un certain nombre de... Enfin, il y a cet aspect-là, enfin, il y a des normes, mais il y a des idées qui peuvent être réinterprétées, qui peuvent être remises au bout du jour, réadaptées selon les contextes historiques, et que donc il y a une très grande diversité, une très grande adaptabilité, une très grande inventivité et créativité de la tradition à partir de matrices narratives, enfin notamment la Bible, et qu'à partir de ces récits, de ces figures bibliques, eh bien il y a une pluralité dissonante même d'interprétations et d'idées, et qui font de la tradition juive un corpus extrêmement vivant n'est jamais figé dans une conception unilatérale, univoque, homogène, mais que cette diversité fait la très grande richesse et la très grande complexité des traditions juives au pluriel.
Merci beaucoup Jean Baumgartel. On a un très bel exemple donc à propos du corps dans votre livre dont je rappelle le titre, Le Petit Monde, le corps humain dans les textes de la tradition juive, de la Bible aux Lumières, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup et
merci
bonne
à
semaine
vous.
À tous.
C'était Le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.